Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
Il n'y aura plus à terme d'animaux dans les cirques parisiens. Engagement sans échéance de la ville de Paris pris mi-décembre, quelques semaines après qu'un tigre fugitif a été abattu dans le 15e arrondissement de la capitale. 41 pays dans le monde ont déjà pris des mesures similaires. L'année 2017 aura aussi été marquée par de nouvelles images d'abattoirs diffusées par l'ONG L214, venant rappeler en cette période de fête que la consommation intensive de viande et l'industrialisation de la filière se fait avant tout au détriment des animaux. Depuis 2015, le Code civil français définit pourtant l'animal comme un être doué de sensibilité. Autant de sujets qui, au-delà de la simple question du bien-être animal, posent la question de son statut juridique, de la place de l'animal dans notre société. Les animaux, des êtres humains comme les autres, c'est notre débat du jour. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Georges Chapoutier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes biologiste, philosophe, directeur de recherche au CNRS, auteur...
Émérite.
Auteur de biologie de la mémoire aux éditions Odile Jacob, et vous avez été par ailleurs vice-président jusqu'en 2010 de la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences. En face de vous, David Chauvet, bonsoir.
Bonsoir.
David Chauvet, vous êtes militant, juriste, vous avez notamment traduit en français le livre de Stephen Wise, Tant qu'il y aura des cages vers les droits fondamentaux des animaux, édité par les presses universitaires du Septentrion. Merci à tous les deux d'être avec nous. Première question un peu générale, qu'est-ce qui définit aujourd'hui notre rapport à l'animal ou peut-être aux animaux, puisque j'imagine que tous ne sont pas traités et considérés de la même manière, Georges Chapoutier?
Je crois d'abord, effectivement, c'est un point essentiel, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un animal? Quand on parle d'animal, tout le monde pense tout de suite à nos chats, nos chiens, éventuellement aux loups, à l'ours, etc. Il y a toutes sortes d'animaux. Il y a les éponges. Les éponges, des animaux qui n'ont aucune sensibilité et qui, sur le plan juridique, devraient être traités, à mon avis, comme des plantes. Il y a des animaux qui ont des sensibilités, mais très peu de conscience. L'huître, la moule, par exemple. Donc, il est clair que tout ça, ça pose des problèmes. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, et heureusement, que le Code civil caractérise l'animal comme un être sensible. Tant mieux, on a fait un grand progrès intellectuel dans ce point-là. Mais qu'est-ce que c'est qu'un être sensible? Qu'est-ce que c'est que la sensibilité? Il y a, encore une fois, il y a des animaux qui ne sont pas sensibles du tout. Donc, si on est amené un jour, et on va en discuter aujourd'hui, à donner des droits aux animaux pour les protéger, parce que nous sommes des sociétés de droit, il faudra que pour chaque groupe d'animal, chaque groupe d'animaux, le juriste décide le statut de ce groupe d'animaux et quels sont les droits qu'on peut être amené à lui donner.
David Chauvet, vous êtes d'accord avec cette distinction?
Oui, effectivement, hein. c'est même des distinctions conceptuelles qui peuvent avoir une certaine incidence sur le plan juridique, parce que quand vous dites qu'effectivement les animaux sont des êtres sensibles dans le Code civil, un certain nombre d'animaux sont des êtres sensibles, mais ne jouissent d'aucune protection. Alors, pourtant, par exemple, prenons l'exemple des animaux qui sont sauvages. Vous voyez, ces animaux sont des êtres sensibles, et pourtant, est-ce qu'ils ont une protection? Non, ils n'en ont aucune. Vous voyez, donc on a effectivement.
Je peux en gérer là-dessus un exemple tout à fait concret. Un faisan, il est protégé pour un ensemble de législation quand il est dans votre ferme. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de le torturer. Mais le même faisan fiche le camp dans la nature. C'est un animal sauvage. Là, il est plus protégé par rien. En d'autres termes, c'est le même animal avec la même sensibilité, mais qui n'est pas tout traité de la même manière.
Alors, comment ça se traduit aujourd'hui au regard de la loi? On a évoqué le fait que le Code civil reconnaissait le caractère sensible des animaux. Mais en termes juridiques, ce sont toujours des meubles, des biens matériels aujourd'hui?
Alors, je laisse le juriste parler après, mais déjà, c'est ambigu, parce que ce sont des êtres sensibles, donc ils sont distingués des biens meubles ou immeubles, mais on peut quand même les vendre. Donc, ils ont un statut qui est très ambigu.
Mais là,
si vous voulez être un peu technique, disons, il y a une subtilité qui a été introduite par cette réforme, c'est que, outre le fait que les animaux sont reconnus en tant qu'êtres sensibles, ils sont reconnus comme étant soumis au régime des biens, c'est-à-dire que on essaye de faire reconnaître que les animaux ne sont pas par nature, si vous voulez, des biens, mais accidentellement, parce que en attendant mieux, si vous voulez, ils subissent le régime des biens. Voilà. Donc c'est une manière, d'une portée un petit peu morale ou symbolique, de voir l'animal comme autre chose qu'une chaise ou qu'une table ou quel objet que ce soit que vous vendez. L'animal, en gros, n'est pas un objet au sens courant du terme.
Mais c'est purement moral et symbolique?
Oui, parce que vous pouvez encore vendre un animal, acheter un animal et le soumettre même à un certain nombre de traitements, malheureusement. Mais dans une certaine limite. Hein. L'animal est un être sensible, ça a une portée juridique aussi. Hein. Un animal sensible, on ne le torture pas, on ne le maltraite pas, en tout cas...
en théorie.
Jusqu'à un certain point, et aussi effectivement en théorie. Mais voilà, il y a des limites à l'emprise humaine sur les animaux.
Est-ce qu'il y a une...
Il faut ajouter que sensible, c'est très vague. Hein. Je rappelle quand même qu'une plante ou la pellicule photo sont sensibles à la lumière. Donc, il faut bien préciser que c'est une sensibilité nerveuse dont il s'agit. Bon. Et comme l'a fait remarquer Chauvet, il y a bien sûr des quantités de dérogations qui font que c'est très bien qu'on ait avancé en ce sens-là, mais il y a beaucoup de progrès à faire encore.
Est-ce qu'il y a une distinction qui est effectuée ou par la loi, ou en tout cas dans le rapport qu'on a dans nos sociétés, aux animaux dits domestiques, les chats, les chiens, les agneaux de ferme par exemple?
Déjà les animaux sous la coupe de l'homme, on en a parlé, les torturer n'importe comment. Sauf dérogation. Là, je fais une parenthèse, on parlera peut-être de la science, un chercheur n'a pas le droit de torturer un poisson, par exemple. Mais l'envoyer vivant dans l'eau bouillante pour la gastronomie, là, c'est OK. En d'autres termes, il faut bien voir que la loi est souvent très ambiguë dans beaucoup de domaines.
David, je vais vous poser en particulier la question de la personnalité juridique des grands singes, espèce particulièrement proche de l'homme.
Oui, c'est une question qui se pose à un niveau international, hein, parce que... ma foi, c'est une revendication qui est portée aussi bien aux États-Unis, elle a été reconnue en Argentine récemment.
Quelle revendication exactement ?
Eh bien, le fait de reconnaître que certains animaux, comme les grands singes, mais pas seulement, ont le droit de bénéficier de la reconnaissance de leur personnalité juridique, c'est-à-dire en gros d'être reconnus à l'égal des humains. C'est bien ça que ça veut dire, avec certaines nuances dans certains cas. Mais l'aboutissement, si vous voulez, d'une lutte pour l'égalité animale, hein, ce qu'on peut appeler l'égalité animale, ça peut se manifester juridiquement par ça, par la reconnaissance de la personnalité juridique. Alors la question se pose de savoir pourquoi on ne leur reconnaîtrait pas une personnalité. Et pour moi, si on ne veut pas reconnaître une personnalité juridique aux animaux, c'est parce qu'on a cette espèce de réflexe quasiment aristocratique qui consiste à dire qu'au sommet d'une hiérarchie cosmique se trouveraient les humains et qu'en bas, il y aurait forcément le reste du vivant, un magma à différencier où on trouverait aussi bien, comme vous le disiez, monsieur Chapoutier, la moule, le grand singe, l'herbe et ainsi de suite, quoi.
Georges Chapoutier, le biologiste et le philosophe que vous êtes, fait une distinction entre les grands singes qui sont très proches de l'homme et les autres animaux.
La biologie, c'est un continuum. Bien sûr qu'il y a une différence entre le grand singe et le chat, et entre le chat et le poisson, et il y a différence entre le grand singe et l'homme. Là,
mais en termes de droit.
Alors, en termes de droit, j'ai une petite nuance que j'évoquerai par rapport, parce qu'on est en débat, mais au moins qu'on ait quelques nuances. Je pense qu'il faut donner aux chimpanzés les droits du chimpanzé, mais pas les droits de l'homme. Je crois que là, il faut bien maintenir quand même une différence entre l'homme et les autres singes, parce que l'homme est un grand singe, lui aussi. On parlait des grands singes, mais l'homme, c'est un grand singe particulier, avec un gros cerveau qui réussit très bien sur le plan technologique, moins sur le plan moral, mais enfin qui a une spécificité. Donc je pense qu'il faut donner à l'homme les droits de l'homme et aux chimpanzés les droits du chimpanzé. Vouloir leur donner les droits de l'homme, ça part d'un très bon sentiment, mais c'est très dangereux, parce que là on met la main dans quelque chose. Si on donne aux chimpanzés, pourquoi pas aux babouins, pourquoi pas, etc. Si on donne tous les mêmes droits à tout le monde, là on va vers un certain danger.
David Chauvet, vous voulez répondre?
Ça dépend ce que vous appelez les droits de l'homme, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de donner les droits de l'homme aux chimpanzés. Leur donner la personnalité juridique, c'est leur reconnaître.
Concrètement, ça voudrait dire quoi ?
Leur reconnaître, un certain nombre de pouvoirs juridiques, le fait de pouvoir rester en justice via un représentant, bien sûr, hein, comme on peut le faire avec par exemple les personnes en état de handicap mental, ce genre de choses. Et à côté de ça, leur reconnaître des droits fondamentaux, parce que les droits fondamentaux, les droits des chimpanzés dont ils ont avant tout besoin, c'est le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas subir de mauvais traitements, le droit de ne pas être emprisonné, ce genre de choses. Alors, y a-t-il un danger à ce que d'autres animaux se voient reconnaître ce genre de droit ? Pas pour ces animaux, en tout cas, c'est plutôt pour eux une protection. Maintenant, la question va se poser à un certain moment de savoir si on va étendre ces droits à l'ensemble des animaux, c'est-à-dire également aux poules, aux vaches, et aux animaux qui actuellement sont quand même très loin de bénéficier de ce genre de droits, puisqu'on les massacre, hein, par exemple en France, à hauteur de 3 millions tous les jours dans les abattoirs. Alors c'est la question peut-être la plus sensible, je dirais.
Georges Chapoutier, ça veut dire qu'il faudrait pour chaque catégorie animale définir une zone de droit
tout à fait
réservée.
Moi, je suis partisan de ce problème-là, parce qu'on va tôt ou tard, comme le disait Chauvet, on va tôt ou tard se heurter au problème de l'intérêt de l'homme, si vous voulez. Bon, alors on pourrait amener et renoncer à certains cas, mais enfin l'homme n'est pas prêt de renoncer souvent à son alimentation carnet, à utiliser l'animal pour différentes choses, à le domestiquer même, à la limite l'animal de compagnie, qui n'a pas tous les droits non plus, à l'utiliser pour sa recherche scientifique, pour améliorer ses médicaments, etc. Donc, on va se heurter à des problèmes extrêmement graves. Donc, si on ne donne pas des profils particuliers à chaque groupe animal, et puis je ne parle pas bien sûr des droits qu'il faudra attribuer à la moule ou à l'huître, qui sont évidemment pas les mêmes que ceux du chimpanzé, on est bien d'accord.
Alors, l'année 2017 était une année électorale. Pour la première fois cette année, tous les candidats à la présidentielle se sont positionnés sur la condition animale à l'appel de 26 ONG, dont la LFDA, dont vous avez été vice-président, Georges Chapoutier. Qu'avez-vous pensé de cette démarche, l'un et l'autre, et des réponses apportées par les candidats?
Je pense qu'il y a une bonne volonté partout. Enfin, partout. Pour ceux qui s'intéressent aux animaux, parce que il y en a qui s'intéressent de façon un peu soft ou électorale. Mais pour tous ceux qui s'y intéressent, il y a une bonne volonté. Maintenant, la bonne volonté est une chose. Elle se traduit par ce code civil qui a été modifié. C'est quand même la clé de voûte de notre système juridique. Mais il y a énormément de progrès à faire. Ne serait-ce que parce que il y a d'énormes dérogations. Il y a des dérogations scandaleuses. Je prends la corrida par exemple. L'animal sensible, on s'amuse à le torturer pour un simple plaisir, en quelque sorte distraction. Donc il y a des dérogations, des dérogation scandaleuse.
David Chauvet.
Je vais peut-être être un peu plus sévère que vous là sur cette question, parce que bon, faut quand même le reconnaître, les Français soutiennent majoritairement la cause animale. On peut dire que la cause animale a gagné le combat à la fois, je dirais, médiatique et le combat, disons, dans l'opinion, quoi. Regardez les sondages, que ce soit sur la corrida, la chasse à cour, ou je ne sais quel sujet, même sur les sujets des animaux dits d'abattoir, hein, les gens sont majoritairement, très majoritairement, opposés à la violence sur les animaux. Et pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on a encore la corrida? Pourquoi on a encore la chasse à cour, etc.? Parce que le personnel politique fait littéralement obstruction. Il fait obstruction soit passivement, en ne faisant rien, en faisant comme s'il n'avait pas entendu, soit carrément en prenant le parti des lobbies minoritaires, le lobby de la chasse à cour, le lobby de la corrida. Alors que normalement, dans une démocratie qui fonctionne correctement, le personnel politique est censé servir l'intérêt général, pas l'intérêt de quelques lobbies minoritaires.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est vrai que les Français sont majoritairement contre la violence faite à l'animal, ils sont choqués, etc. Les images qui ont été diffusées sur les abattoirs sont frappantes dans ce domaine-là, et heureusement que ces images ont été diffusées d'ailleurs, ça a été très sain. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y a beaucoup d'inertie chez les gens. Ils seront tout à fait contre la violence faite à l'animal, quand dans leur présence ils diront « Oh, c'est scandaleux », mais ils vont quand même pour Noël manger leur foie gras.
Ça, c'est sûr.
Alors, on a beaucoup parlé cette année, et on vient de le faire, des abattoirs, je me le mentionnais en introduction aussi. Le cas des animaux de laboratoire aussi a fait débat, c'est un sujet que vous connaissez bien, Georges Chapoutier, puisqu'en tant que chercheur, vous êtes vous-même amené à mener des expériences sur les animaux.
Mais bon.
Dans le passé, en tout cas, vous l'avez fait. Est-ce que cette question et les pratiques ont évolué au
tout de votre carrière? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une question très délicate, parce que là, il s'agit quand même de faire souffrir l'animal, puisqu'il y a une souffrance, il y a des piqûres, des choses comme ça, pour un bénéfice qui se traduit à terme par de la médecine humaine. Donc c'est très délicat à discuter. Je pense pas que la majorité des gens aujourd'hui... J'ai connu des gens qui refusaient tout médicament. Il y en a quelques-uns, des saints. Il n'y en a pas beaucoup qui, en cas de maladie, refuseraient à leurs proches un médicament. Donc c'est pas un problème simple. Donc je pense pas que... Je suis ceux qui ne pensent pas qu'on puisse supprimer l'expérimentation dans l'immédiat. Qu'il en sera dans quelques siècles, c'est un autre problème. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est améliorer les choses petit à petit. Et de fait, les choses se sont beaucoup améliorées, et je pense que la recherche, c'est un des domaines où la loi est la plus stricte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'un chercheur ne peut pas faire, il est contraint, il ne peut pas faire n'importe quoi sur ces animaux. Entendons bien les animaux vertébrés et les pieuvres. Hein. Sur un invertébré comme le homard, on peut faire n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de progrès à faire. Je ne veux pas discuter dans les détails tout ce qu'on pourrait faire de mieux, mais il y a eu des progrès très nets et c'est très bien, mais il y a encore de la marge à faire.
David Chauvet, sur cette question, comment vous vous positionnez?
Oui, alors, c'est vrai, comme vous dites, il y a eu du progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Je vous prends un exemple, hein. Le fait que, vous voyez, les mêmes médicaments peuvent être testés, la même substance va être testée par des laboratoires différents. Donc on va démultiplier le nombre d'animaux qui subissent de la torture, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, un animal qui, il y a même des expériences qui portent sur la douleur, qui visent à infliger sciemment de la douleur aux animaux. Alors évidemment, l'intention du chercheur, en général, n'est pas de torturer l'animal. Mais bon, du point de vue de l'animal, ça change pas grand-chose. Lui, il subit ses souffrances et à la fin, il est tué. Donc, il y a quand même, si vous voulez, une sorte de mépris de l'animal. Parce qu'à partir du moment où vous faites les mêmes expériences par des lobbies, par des laboratoires différents, et qu'à aucun moment, les pouvoirs publics ne disent « Bon, bah écoutez, quand même, on va arrêter ça », il y a un problème.
Est-ce que, puisqu'on parle de droit des animaux, ici, le droit supérieur de l'homme, de l'humain, à faire des tests pour sa propre santé à terme, l'emporte sur le droit de l'animal?
Oui, enfin, bon, je recadre sur ce que je viens de dire juste avant. Là le fait de démultiplier des expériences sur les animaux pour la même substance n'aide en rien les droits de l'homme ou le droit à la santé, si vous voulez. Alors la question de savoir si les humains ont le droit de faire des tests des animaux, bah ça c'est un peu le jugement de valeur qu'on peut avoir. Certains vont vous dire oui, d'autres vont dire non. De quel droit, moi je peux vous poser la question, de quel droit on se permet de faire ça. S'il y avait plus d'animaux sur Terre, admettons que, enfin un peu de science-fiction, que tous les animaux disparaissent. Alors qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on prendrait des humains qui auraient plus de handicap mental, ce genre de choses? Enfin, je veux dire, ou est-ce qu'on se passerait complètement des tests? Oui.
C'est une question qui s'est fait dans le passé sur les humains. Heureusement que ça, enfin, en principe, ça ne se fait plus, sauf dans des cas abusifs. Si ça se fait, c'est les humains, ça se fait de façon, en quelque sorte, clandestine.
Hein. Bon, c'est un autre débat.
Juste nuancer un point sur la douleur. Il y a des expériences sur la douleur, mais il faut bien voir que les douleurs sont des douleurs minimales. Hein. C'est quelque chose qu'on oublie de dire. Il s'agit pas de torturer les animaux. Il s'agit de voir le seuil à partir duquel ils commencent à réagir. Enfin, même dans ce domaine-là, je ne dis pas que c'est parfait moralement, mais même dans ce domaine-là, les chercheurs ont cherché à améliorer les choses vis-à-vis de l'animal.
Georges Chapoutier, on parle beaucoup de la règle des 3 R. Vous pouvez peut-être expliquer ce que ça veut dire?
C'est une règle, justement, qui vise à améliorer la recherche scientifique par 3 R qui sont, refine, reduce, replace,
réduire, raffiner, remplacer.
Voilà, c'est ça. Réduire, raffiner, remplacer. Donc 3 R, auquel on ajoute un 4e maintenant, qui est de réhabiliter les animaux quand on peut. C'est-à-dire que quand on peut, c'est possible pour les chats, les chiens, etc. Éventuellement, pour les rongeurs, ça poserait beaucoup de problèmes. Hein. Mais quand on peut d'arriver à les replacer quand ils ont fait leur.
C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur ces animaux, voilà. On peut les remettre en liberté, les mettre dans une famille, par exemple.
Voilà, par exemple, oui, tout à fait. Encore une fois, pour les souris et les rats, ça pose beaucoup de problèmes.
Qu'est-ce que ça a changé, le fait que ces trois ou ces 4 R.
Eh bien, c'est que ça, alors, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, ça fait qu'on vise à une amélioration, si vous voulez. Par exemple, le nombre d'animaux utilisés a baissé. Maintenant, il tend à se stabiliser. J'ai pas les chiffres sous les yeux ici, si vous voulez. Mais il y a une assez forte baisse ces dernières années, et maintenant on plafonne, si vous voulez. Donc les 3 R, ça a été une manière, en quelque sorte, d'améliorer les choses dans toutes sortes de domaines. Un autre exemple que je vous cite. Autrefois, quand j'ai commencé la recherche il y a 50 ans, le chercheur pouvait, il était libre de faire ce qu'il voulait avec ces animaux. Maintenant, il y a des contraintes, il faut qu'ils suivent des formations, qu'ils passent des examens, à mon avis totalement insuffisants, mais il y a au moins ce progrès-là déjà.
Alors, dernier sujet que je voulais aborder avec tous les deux, le végétarisme et le véganisme sont souvent, qui consistent donc à ne plus manger de viande, sont souvent considérés comme des causes réservées aux privilégiés. Pourtant, il y a des raisons multiples de faire ce choix.
David Chauvet. Oui. Pour moi, ça veut rien dire. Une cause, enfin, être végétarien ou végétalien n'est pas réservé aux privilégiés. C'est réservé à ceux qui désirent respecter les animaux. Et ça coûte pas plus cher d'être végétarien ou végétalien que manger de la viande. Je pense même que ça coûte plus cher de manger de la viande.
Genre, ça peut dire... D'abord, il faut distinguer. C'est pas la même chose. Le végétarien tolère les produits animaux. C'est-à-dire que dans une société affluente comme la nôtre,
les œufs, par exemple,
ça suppose des œufs, ça suppose du lait, donc l'abattage des veaux, etc. Donc le végétarien, il est un peu plus compromis, si j'ose dire, que le végan par rapport à la souffrance animale. Ceci dit, je suis pas du tout un révolutionnaire. Je pense qu'il faut aller vers une amélioration, une tendance végétarienne ou végane, et que ce qu'on appelle le flexi, c'est-à-dire les gens qui mangent un peu de viande mais qui cherchent à augmenter leur diète végétarienne ou végane. Et si on faisait ça déjà, on ferait de gros progrès. Si la majorité de la population augmentait sa diète végétale, nous irions mieux, point de vue médical, et les animaux iraient mieux aussi.
Il nous reste une minute pour conclure. Je vais vous laisser 30 secondes à tous les deux pour choisir un point sur lequel il faudrait le prochain combat, en tout cas sur le droit des animaux.
Ah ouais, je vais être très clair. Là, je sors d'une réunion près de l'Assemblée nationale organisée par le CAP, Convergence Animaux Politiques, et où on était réunis avec des parlementaires sur cette question de la politisation de la cause animale, c'est-à-dire que faut-il à notre personnel politique pour comprendre qu'ils sont censés, à un certain moment, porter les revendications de la population contre la souffrance animale. Et moi, le grand combat, en fait, de la cause animale, maintenant, c'est de se faire entendre du personnel politique. Et c'est quelque chose, pour moi, dans un système démocratique comme le nôtre, qui pose problème, Julien.
Georges Chapoutier.
Je suis navré dans un débat, mais je vais dire un peu la même chose, mais de façon plus nuancée. Je pense qu'effectivement, que la main, elle est maintenant dans la main du politique, si j'ose dire, c'est-à-dire, finalement, des gens qui nous représentent. Mais je suis un peu plus optimiste, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de politiques actuellement qui s'intéressent à ces questions. Disons, le thème du respect de l'animalité est un thème qui est devenu maintenant un thème d'actualité politique aussi, et ça, c'est très bien.
Merci beaucoup à tous les deux. Georges Chapoutier, biologiste, philosophe, directeur de recherche au CNRS. David Chauvet, juriste et militant. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, Biologie de la mémoire, paru aux éditions Odile Jacob. Et Tant qu'il y aura des cages vers les droits des animaux, vers les droits fondamentaux des animaux, édité par les presses universitaires du Septentrion. Livre de Stephen Wise que vous avez traduit, David Chauvet. Merci également à Florence Ponce et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait Guillaume Meunier. Merci aussi à lui. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal.